Vous êtes sur RTL.
.fr. RTL Matin.
Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
C'est donc aujourd'hui que vous installez l'office anti-stupéfiant, l'OFAST, hein, pour mieux lutter contre les trafics de drogue. Mais alors, ça fait quand même des décennies qu'on cherche à lutter contre le trafic, contre les réseaux. Ça sort par la porte, ça rentre par la fenêtre. On trouve des dealers partout, devant les lycées. Maintenant, les chauffeurs Uber qui livrent avec l'Uber Sheet ou l'Uber Coq, hein, c'est comme on veut. Et derrière tout ça, il y a de gros réseaux. Qu'est-ce qui ferait, Christophe Castaner, que ce nouvel outil, l'OFAST, viendrait lutter drastiquement contre le trafic de drogue ?
D'abord, un mot global sur ce fléau mondial. Vous avez raison, 168 000 morts chaque année du fait de la drogue et des abus de la drogue. Et en France, c'est un marché d'environ 3,2 milliards d'euros. Vous vous rendez compte la dimension dans laquelle nous sommes. Mais vous avez raison, il y a aujourd'hui des quartiers entiers qui sont sous la mainmise des trafiquants, parce que c'est une économie qui s'est organisée et que quelquefois le fait d'être celui qui donne l'alerte, pour utiliser un mot que chacun comprendra, c'est la seule rémunération du foyer. Et donc il nous faut lutter activement sur ce sujet. Alors, il y a des outils, mais depuis 66 ans, nous n'avions pas changé la forme de l'outil et l'engagement de nos forces sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle, avec Laurent Nunez, on a créé l'OFAST et surtout on a changé la méthode. On lance un plan d'action, 55 mesures qui vont de la communication, du renseignement jusqu'à l'action. On structure au niveau national et on construit autour du décloisonnement entre toutes les forces et du renseignement. Un seul exemple.
Toutes les forces, c'est police, gendarmerie,
et
douane.
En fait, la vraie nouveauté, c'est que justement, nous travaillons pour, à la tête de cette OFAST, une jeune femme, commissaire de police, et puis un procureur qui est avec elle. C'est la première fois où, dans une institution du ministère de l'Intérieur, nous mettons un magistrat présent. Et puis ensuite, vous aurez un gendarme, vous aurez un douanier, vous aurez un policier. Et au fond, l'idée, c'est d'être totalement décloisonné pour lutter à tous les niveaux. Je prends un petit exemple, les saisies. Aujourd'hui, les saisies liées au trafic de drogue, c'est 10% de l'ensemble des saisies. Par contre, compte tenu du volume du marché, c'est 3,2 milliards dont je vous parlais, je pense qu'il faut frapper au portefeuille et frapper fort.
Il y a eu beaucoup de saisies, d'ailleurs en 2019, c'est encore une année record.
Alors il y a les saisies en volume de ce que nous prenons. Par exemple, rien qu'au mois de janvier, c'est plus d'une tonne et demie de cocaïne que nous avons interceptée. Mais les saisies dont je parle, c'est aussi les saisies financières. Le fait que les trafiquants de drogue sont propriétaires de restaurants, d'immeubles, de grosses voitures, de maisons.
Mais
c'est
pardon,
là aussi on va les frapper.
Christophe Castaner, il existe les GIR, les groupes d'intervention régionaux, police, gendarmerie, douane, URSSAF, tout ça au niveau régional. Ça ne fait pas un peu doublon ?
Non, parce qu'ils ne sont pas spécialisés sur la question de la lutte contre le trafic de drogue à tous les niveaux. En réalité, ce que je souhaite, c'est pas qu'on fasse de l'interpellation ou du volume, justement, de produits interpellés, mais qu'on puisse mener l'enquête sur la globalité de la chaîne, c'est-à-dire de l'international jusqu'à la cage d'escalier, et qu'on mène un combat inlassable de la cage d'escalier, mais en faisant tomber toute la filière.
Vous savez ce que disent les stupes ? Dans cette lutte-là, vous ne faites que vider la mer avec une petite cuillère. Ils ont raison, chaque fois qu'un réseau est démantelé, un autre prend sa place. Il y a comme une fatalité, finalement.
Oui, bon, on peut être un Sisyphe heureux pour faire un peu de littérature sur ce sujet. Ce que je veux dire à travers cela, c'est qu'on doit se battre sans cesse contre ce mal. On ne doit pas constater ce mal et baisser les bras, non. On doit le faire et donc on change de méthode, on amplifie. On travaille sur des cellules départementales. Il y en a 39 aujourd'hui qui sont déjà opérationnelles. J'installerai l'OFAS tout à l'heure. À la fin de cette année, ce sont 103 cellules qui seront départementales, qui se seront actives. Et donc c'est un nouveau regard, mais c'est l'idée de faire de ce combat une priorité parce que ça bousille des vies. Ça bousille des familles, ça bousille un écosystème, ça bousille des territoires.
Et le trafic de drogue s'ajoute aux autres faits de violence. La violence explose en France. Vous avez d'ailleurs été piqué au vif par les accusations de Xavier Bertrand, qui dit que votre politique sécuritaire est un fiasco. Mais pourtant, les homicides sont en hausse, la délinquance a fortement augmenté. Il n'a pas tout à fait tort, Xavier Bertrand.
Non, il y a la violence qui a augmenté, dont on constate son augmentation. La délinquance, non, je vous corrige légèrement, parce que les vols à main armée, hein, les vols violents, les cambriolages sont en baisse, et sont en baisse significative. Mais il y a effectivement des formes de violence, et notamment les violences infrafamiliales. Peut-être plus dures, d'abord, mais il y a aussi cette forte augmentation que nous connaissons sur les atteintes aux personnes qui sont liées aux violences infrafamiliales. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? La réponse est non, et je ne veux pas dire que les statistiques sont bonnes. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on porte plus plainte sur les viols, sur les violences faites aux femmes au sein du couple et sur globalement les violences infrafamiliales. Donc oui, les statistiques
mais
augmentent.
Mais il n'y a pas que dans les familles, Christophe Castaner.
Mais c'est la moitié.
Il y a une violence dans la rue et de plus en plus de gens aussi qui règlent leur compte entre eux.
Alors ça moi, je ne crois pas que la société devienne violente comme ça. Quand on regarde la
c'est
réalité
statistique...
C'est
une société qui est éruptive.
Non, mais quand on regarde globalement sur des longs termes, sur le long terme, la violence du quotidien, on s'aperçoit que le nombre d'homicides a plus que diminué par deux sur 15 ans de référence. Et le sentiment d'insécurité des Français...
C'est pas ce que dit le service statistique de votre ministère ou l'Institut pour la justice. Le nombre d'homicides a augmenté.
Alors le service statistique, non. Sur la dernière année, mais sur 10-15 ans, il a baissé et toutes les statistiques le montrent. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont vrais, qui sont sincères. Depuis 2014, c'est pas moi qui les ai mis en place. Avant, on jouait avec la statistique. Et c'est pour la raison pour laquelle moi, je ne crois pas à la culture du chiffre. Mais c'est un indicateur qu'il ne faut pas jeter. C'est un thermomètre, il ne faut pas casser le thermomètre. Mais attention au fait qu'on ne peut pas dire que la société devient violente comme ça. Tous les indicateurs montrent que notre société sait aussi réguler, apaiser la situation. Mais toute violence est inacceptable et nous devons rester mobilisés.
Monsieur le ministre, la commission parlementaire sur l'attentat de la préfecture de police de Paris a fait un point d'étape mercredi. Vous allez être auditionné bientôt, le 4 mars prochain. Je rappelle que cette attaque a fait 4 morts à la préfecture de police, tuée par un agent informatique radicalisée. La commission a pointé des failles. Des failles, il en existe d'autres. J'ai deux questions très précises, monsieur le ministre. Comment se fait-il qu'un djihadiste syrien recherché pour crime de guerre se retrouve avec un visa étudiant de 3 mois pour étudier à la fac d'Aix-Marseille, visa délivré par le consulat de France à Istanbul ?
Parce qu'au moment où il a demandé son visa, il n'était pas enregistré dans aucun fichier dont nous avons connaissance.
Il était poursuivi pour crime de guerre.
Il n'était présent dans aucun fichier en France. Non mais attendez, c'est pas la France qu'il poursuivait pour crime de guerre. C'est un pays étranger qui n'avait pas communiqué cette information. Par contre, dès que l'information a été communiquée, 2 mois plus tard, nous l'avons immédiatement retrouvé, neutralisé, interpellé. Il est en prison en France.
Et en 2 mois, il a fait quoi ? Il a contacté des gens, il a installé un groupe...
Là, nous sommes en enquête. Attention, ne confondez pas terrorisme et les crimes de guerre, c'est deux choses qui sont différentes.
Il vient de Syrie, pardon. Djihadiste syrien.
C'est deux choses qui sont différentes et a priori, de ce que je sais de l'enquête, mais l'enquête se déroule, il n'y a aucun élément qui montre qu'il était venu pour construire un réseau en France. Mais dès que nous avons eu l'information, nous l'avons retrouvé, nous l'avons interpellé.
Et comment se fait-il que dans le réseau de terroristes démantelé à Brest il y a 3 semaines, on trouve un réfugié syrien ? Est-ce que ça veut dire, ces deux exemples, que la France est une passoire ?
Non,
qu'on peut entrer...
Attendez, ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'interrogez en me disant la France est une passoire à partir d'exemples de gens qui ne sont pas passés à l'acte et que nous avons arrêtés avant.
Mais ils sont entrés en France.
Ah non, mais... Et certains étaient déjà en France, sur les 8, 7 étaient déjà en France, et le 8e aurait un statut de réfugié.
Je ne vous accuse pas, je veux savoir où sont les failles.
Je trouve que vous prenez de bons exemples, c'est-à-dire de bons exemples où, en amont avant tout risque, nos services sont intervenus et ont neutralisé le risque. Depuis 2013, 61 attentats ont été déjoués dans notre pays. Chaque jour, chaque nuit, nos services sont hyper mobilisés sur le sujet, et en particulier du fait du chef de fila et des moyens nouveaux que le président de la République a accordé à la DGSI dans notre pays. Ils sont d'une redoutable efficacité. Est-ce que je vous dis il n'y aura plus d'attentats en France ? Ce serait vous mentir. Et donc je ne le ferai pas parce que je ne joue pas sur cela. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont omniprésents et que nous avons fortement progressé sur ce sujet-là.
Christophe Castaner, est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot « séparatisme » ? Parce qu'il paraît que c'est le nouveau mot que l'Élysée a trouvé à la place de communautarisme.
Mais moi, je ne commente pas les commentaires. Le président de la République s'exprimera dans quelques temps sur ce sujet. Je peux vous parler du fléau de l'islamisme, du communautarisme.
Ah, c'est bien ça. C'est bien de ça qu'il s'agit.
Ou du séparatisme. Non, parce qu'il y a 3 mots qui sont différents et donc je vous dis, je peux vous en parler. Mais je ne suis pas là pour commenter ce que des journalistes auraient entendu de la bouche du président de la République.
Mais séparatisme, le président l'avait plus ou moins dit.
Bien sûr, il l'a dit dans un avion en discutant avec des
Exactement.
Journalistes. Exactement. Il y a quelques temps dans un déplacement. Mais le séparatisme, c'est quoi ? C'est des gens qui considèrent qu'on peut mettre en place sur des territoires un système qui se construit à côté, voire contre les valeurs de la République. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui s'aggrave, c'est un phénomène contre lequel nous luttons. Au mois de novembre, j'ai réuni l'ensemble des préfets de ce pays pour lancer un plan d'action massif contre le séparatisme, contre l'islamisme, pour faire en sorte que nous puissions lutter contre cela pied à pied, et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons activement à partir d'une politique que nous mettons en place. Donc 15 quartiers identifiés comme des quartiers censés avoir été là où on a le plus grand nombre de jeunes qui sont partis à partir de 2013 faire le djihad en Syrie ou en Irak. Et nous menons une politique d'entrave massive qui porte ses fruits. Ben, c'est cette politique-là que nous avons menée pendant 18 mois dans ces 15 quartiers que j'ai demandé au préfet d'étendre sur l'ensemble du territoire national et qui porte ses fruits. Nous fermons des lieux de
des
culte.
Mosquées.
Nous formons, 15 par exemple. Nous avons fermé 12 établissements culturels ou culturels. Nous avons fermé 4
écoles,
mais aussi des commerces, des débits de boissons. Nous en avons fermé 152 dans ces seuls 15 quartiers. Nous menons une politique d'entrave où on frappe avec tous les moyens juridiques dont on a la capacité de les utiliser pour justement faire reculer ceux qui pensent que la République n'a pas sa place dans ces quartiers.
La critique qui est portée, c'est le rétablissement de l'ordre républicain. C'est cette critique qui est portée.
J'espère que ce n'est pas une critique. J'espère que c'est une ambition que nous partageons tous. Celle justement de faire que dans ces quartiers, il n'y ait pas un mètre carré où la République recule. Moi, c'est le combat que je mène tous les jours et que mènent les forces.
Et ce n'est pas un combat perdu d'avance dans certains quartiers ?
Non, je ne crois pas. Parce que sinon, il faut qu'on change tous de métier, voire de pays. Non, moi, je reste optimiste. Je pense qu'il y a des combats à mener. Nous les menons. Et donc, je ne me résignerai jamais à penser que la République et la loi de la République reculent, que l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être oubliée dans certains quartiers, par exemple.
Vous ne regrettez pas de ne pas avoir saisi la main tendue par Jean-Louis Borloo et son plan banlieue ?
Si je prends le plan banlieue de Jean-Louis Borloo, je n'ai pas le souvenir, par exemple, qu'il ait traité de la question de la place de l'islamisme et du communautarisme dans son rapport.
Vous ne le regrettez pas, donc.
Non, vu que c'est un sujet sur lequel nous discutons, nous voyons qu'à l'époque où il était ministre, ce sujet n'était pas au même niveau de risque qu'aujourd'hui. Ensuite, il y a toute une série de propositions qu'il faisait, que nous conduisons, que Julien de Normandie conduit, et il apporte un regard et une intelligence de vision du territoire que je fais mienne.
Monsieur le ministre, ce soir à l'Élysée, le président reçoit les députés de la majorité pour une séance dite de câlinothérapie pour tenter de les apaiser après le couac sur le deuil parental. Beaucoup disent ressentir une grande amertume quand le président a notamment demandé à faire preuve d'humanité. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, à ces députés ?
Je ne suis pas président de la République, mais je sais ce que je leur dis au quotidien parce que je travaille beaucoup avec eux sur l'affaire du congé pour le deuil. On s'est pris les pieds dans le tapis collectivement. Il faut l'assumer, il faut corriger, c'est ce que nous faisons.
Dans cette affaire, ce n'est pas le gouvernement qui est plus responsable que les députés quand même ?
Moi, je ne sais pas qui est le plus responsable. Je dis on s'est pris les pieds dans le tapis et donc je ne cherche pas à désigner tel ou tel responsable. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, nous travaillons ensemble. Vous savez, j'ai été élu député de cette majorité. Je me sens lié à eux. J'étais secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Beaucoup, j'ai fait campagne avec eux sur le terrain.
Et là, donc, ils en ont gros sur la patate.
Nous sommes frères d'armes. Mais c'est difficile d'être député. Je l'ai été, je sais que c'est compliqué. Et donc, il est normal qu'il y ait aussi des temps d'échange, de dialogue et de franc dialogue avec le président de la République. Je suis sûr que c'est comme cela que ça se passera ce soir. Et ne cherchons pas à opposer les parlementaires de la majorité au président de la République. Nous sommes un bloc uni.
Merci, monsieur le ministre.
Merci à vous.
Le nouvel office anti-stupéfiant, un marché de plus de 3 milliards en France avec des quartiers qui vivent de ce trafic, vient de nous dire le ministre de l'Intérieur. La structure de lutte française n'avait pas évolué depuis 66 ans. Il faut notamment frapper au portefeuille et frapper fort, nous a dit Christophe Castaner. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.